Bonsoir à toutes, à tous. Nous arrivons progressivement à la fin de la première partie du cours qui tente de construire, de reconstruire progressivement la question du salut, qui est la question centrale de l'anthropologie, donc la perspective christologique de l'anthropologie théologique, et nous arrivons avec Gaudium et Spes à un moment tout à fait décisif. Donc c'est le chapitre 5 que j'ai commencé la dernière fois. Il ne s'agit plus ici, je dirais, de faire l'expérience du salut. Vous vous rappelez, c'était la question de Luther, reprise par le Concile de Trente. Mais il s'agit d'inscrire le salut dans l'histoire et donc de le considérer dans l'histoire. Et donc c'est la constitution pastorale Gaudium et Spes. On a une belle définition du pastoral à la page 65 de votre polycopié. C'est dans la préface de Gaudium et Spes. Continuez. Il s'agit de cela pour l'Église, continuer sous l'impulsion de l'Esprit Consolateur, l'œuvre même du Christ, venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, pour sauver, non pour condamner, pour servir, non pour être servi. Donc, sauver l'homme, c'est l'autre formule très actuelle qui est au centre donc de ce texte. Alors, on peut évidemment pas le lire en détail, ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. C'est un des textes les plus longs, le plus long du Concile. Mais si on suit un tout petit peu le polycopié, vous allez voir, on va toucher au nœud essentiel de ce texte. Et un premier nœud essentiel, c'est au fond la méthode qui nous a été fournie par une longue tradition, la tradition de l'action catholique. Donc là, les trois étapes de cette méthode, voir, agir, voir, juger, agir. Donc d'abord le voir, et ça vous donne déjà un peu le plan, on peut rapidement regarder ça. J'ai commencé d'ailleurs la dernière fois, donc à la page 66, donc c'est le célèbre exposé préliminaire, dans une démarche inductive, le Concile nous présente un diagnostic de la présence de l'homme, l'anthropologie, aujourd'hui, donc il y a 50 ans. L'exposer la condition humaine dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'est l'homme qui est le lieu, l'homme qu'il s'agit de sauver, qui est le lieu, l'anthropologie, de l'échange entre l'Église et la société. Et il y a là un nœud, un premier nœud, c'est le numéro 10. Vous voyez la fin au fond de ce diagnostic inductif, et où on passe finalement au jugé. C'est-à-dire comment, je dirais, interpréter concrètement la situation de l'homme moderne. Comment l'interpréter? Et toute la première partie du texte porte sur le jugé, c'est-à-dire nous propose une doctrine, une anthropologie théologique, mais dont la fonction est précise, c'est-à-dire il s'agit d'interpréter la situation de l'homme dans une perspective proprement théologique. Donc ce sont les deux numéros, c'est le nœud, le premier nœud, les numéros 10 et les numéros 11. Donc si vous avez le texte, je vois il n'y a pas beaucoup de textes, je vous avais invité de les prendre, parce qu'on ne va pas les reproduire, mais je vais vous lire les passages essentiels. Donc vous êtes à la page 66 en même temps de votre polycopié, et au début de la page 67. Donc le numéro 10 fait le passage. Donc le numéro 10 nous présente d'abord ce qu'il appelle au fond les grands déséquilibres de l'être humain. Les grands déséquilibres de l'être humain, c'est une sorte de récapitulation. D'une part, comme créature, l'homme fait l'expérience de ses multiples limites. Les limites sont toujours là. D'autre part, ils se sont illimités dans ses désirs et appelés à une vie supérieure. Et le texte continue, sollicité de tant de façons, il est sans cesse contraint de choisir et de renoncer. Choisir, c'est renoncer en même temps. Pire, et c'est là où intervient le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, faible et pécheur, il accomplit souvent ce qu'il ne veut pas et n'accomplit point ce qu'il voudra. Donc, il choisit mal. Voilà les déséquilibres et intervient ici un point tout à fait décisif que vous trouvez déjà dans le numéro 6. Au fond, le problème fondamental de l'être humain aujourd'hui, c'est articuler à la fois la socialisation et la personnalisation. En somme, les relations de l'homme avec ses semblables se multiplient sans cesse, tandis que la socialisation elle-même entraîne à son tour de nouveaux liens. Et on voit bien, n'est-ce pas, depuis 50 ans, je dirais, par Internet, etc., ça s'est confirmé et radicalisé. Tandis que, voilà, sans favoriser toujours pour autant, comme il le faudrait, le plein développement de la personne et de relations vraiment personnelles, c'est-à-dire la personnalisation. Donc, quand on fait un diagnostic, je dirais, ça c'est au fond le nœud ici à la fin de l'exposé préliminaire, c'est-à-dire de retourner au cœur humain. Il y a à la fois l'extérieur, la socialisation, et il y a ce passe dans le cœur humain, la personnalisation. En somme, justement, c'est en lui-même qu'il souffre division, et c'est de là que naissent au sein de la société tant et de si grande discorde. Alors, évidemment, je dirais, les discordes dans la société refluent aussi sur l'intériorité, le texte le dit. Mais on ne peut pas faire abstraction de l'intériorité de l'être humain quand on fait un diagnostic. Et vous vous rappelez ensuite, je l'ai lu la dernière fois, il y a toute une série de possibilités d'interpréter cette situation qui viennent. Certains posent finalement la question « qu'est-ce que l'homme ?» Et ce qui est remarquable dans le paragraphe 2, donc le point ultime de ce diagnostic, c'est que l'Église n'a pas les réponses. Vous voyez, on sort ici très radicalement du schéma classique, les hommes posent des questions et l'Église, la révélation a la réponse. C'est fini. L'Église, quant à elle, croit que le Christ mort et ressuscité pour tous offre. Donc il s'agit d'une proposition à l'homme par son esprit, et qu'est-ce qu'il offre? Lumière et force pour répondre à l'homme, pour permettre à l'homme de répondre à sa très haute vocation. Donc c'est à l'homme de répondre, et pas à l'Église à sa place. L'homme doit répondre à sa haute vocation, à son humanité. Et le Christ apporte à la fois lumière, donc une certaine intelligence, et force surtout, énergie, ressources intérieures. Voilà, si vous voulez, ça c'est le premier nœud. Et ensuite, donc, à partir de ce diagnostic, le voir, on passe au juger. Et là, je dirais, on entre dans une démarche de type déductive plutôt, une démarche déductive, tout en indiquant quand même dans le numéro 11 que je vous lis, un point tout à fait essentiel qui ouvre au fond le texte à toute la suite, je dirais, de notre histoire, 50 ans et même après. Il s'agit toujours de discerner les signes des temps. Et donc, voyez, ça fait partie de ce mouvement qui nous est proposé par le texte, le voir, le juger. Le juger est un discerner. Et on rappelle ici, évidemment, le jugé du Christ, vous êtes des bons météorologues, dit-il à ses contemporains, mais les signes des temps, vous ne savez pas en juger. Donc il s'agit au fond de ça. Et le signe par excellence, c'est la foi. Alors si on regarde maintenant un peu le numéro 11, le paragraphe 1, mu par la foi, se croyant, là c'est une mauvaise traduction, au moins dans la mienne ici, se croyant conduit par l'Esprit du Seigneur qui remplit l'univers. Donc, voyez, c'est déjà la deuxième fois la foi. Mu par la foi, se croyant Conduit par l'Esprit du Seigneur qui remplit l'univers, le peuple de Dieu s'efforce de discerner, et maintenant viennent trois termes très importants, les événements, les exigences et les requêtes de notre temps, auxquels il participe avec les autres hommes, quels sont les signes véritables de la présence ou du dessein de Dieu. Donc il s'agit de discerner maintenant la présence de Dieu. Et ça, c'est la foi qui fait ça. D'où les trois mentions. La foi. Trois fois la foi. La foi, voilà, la troisième fois, en effet, éclaire toute chose d'une lumière nouvelle et nous fait connaître la volonté divine sur la vocation intégrale de l'homme. Voyez, vous avez là l'anthropologie théologique. C'est le sens de la première partie. La vocation intégrale de l'homme, orientant ainsi l'esprit vers les solutions pleinement humaines. Alors les trois termes, événements, il y a des événements qui se produisent. J'aime bien l'exemple terrible du tsunami au Japon. Un événement inattendu qui produit quoi? Des exigences, c'est-à-dire un débat dans le monde entier, sur le globe tout entier, sur l'énergie. L'énergie atomique, oui ou non? Ça, c'est le deuxième. Ça fait partie du discernement. Un événement, comme dans les Actes des Apôtres, les événements qui se sont produits parmi nous. Vous voyez, c'est une vision très historique, finalement, de l'anthropologie. Des événements se produisent qui conduisent à un débat où il faut beaucoup de compétences. Et est évoqué en dernier instant, ensuite, je dirais, après les événements, les exigences, les requêtes. Qu'est-ce que c'est les requêtes? C'est les désirs, on traduit parfois. On pourrait dire les utopies ou l'utopie. Évidemment, je dirais, dans le débat autour de l'énergie, c'est l'utopie d'une réconciliation, pourrait-on dire, entre l'homme et son environnement. C'est une utopie, d'une certaine manière, alternative à l'heure actuelle. À l'époque, c'était pas ça. C'était le débat avec l'utopie marxiste. Voyez, mais la tradition chrétienne a quelque chose à apporter, une vision propre. Et donc le discernement des signes des temps que Gaudium et Spes produit consiste à repérer les événements. À partir des événements, ça déclenche un débat dans les sociétés où il faut beaucoup de compétences, de toutes sortes, c'est la deuxième partie de Gaudium et Spes, mais à l'horizon, il y a cette vision d'un être humain, la vocation intégrale de l'être humain. Et dans le paragraphe 3 de ce numéro noyau, si je puis dire, vous trouvez une formulation absolument remarquable. Ainsi se manifestera le caractère religieux et par le fait même souverainement humain de la mission de Dieu. Donc voyez, je vous ai indiqué ça dans votre polycopier. Donc voyez, la mission de l'Église, la mission pastorale de l'Église, le discernement des signes des temps, et finalement, je dirais, le juger, donc la proposition d'une anthropologie chrétienne, c'est une anthropologie religieuse, évidemment, il s'agit de la foi, mais elle est souverainement humaine. Souverainement humaine. Et c'est à ce titre-là que l'Église intervient justement dans le débat. Voilà, si vous voulez, je dirais le nœud. Alors ensuite, je dirais la première partie, la doctrine, donc juger, l'Église et la vocation humaine, c'est le titre. Elle fonctionne, si vous voulez, facilement repérable sur deux principes. Il y a d'abord une certaine ordonnance philosophique et théologique de la sphère humaine, ce sont les quatre chapitres. Donc la dignité humaine, et on retrouve la personnalisation, premier chapitre. Chapitre 2, la communauté humaine. Et évidemment, je veux dire, quand on parle de la dignité humaine, on ne peut pas ne pas parler déjà de la communauté. Donc, dès le numéro 12, on vous parle déjà de la communauté. Donc, voyez, socialisation et personnalisation. Ensuite, le chapitre 3, qui est le point nodal de nouveau, si je puis dire, de toute la première partie. Il s'agit de l'activité humaine dans l'univers. Point central de la première partie, je lis dans mon polycopier, qui implique une philosophie de la praxis. voyez, à l'époque, on est en débat avec le marxisme. L'homme ne se trouve plus, voilà le point. Je vous ai beaucoup parlé au moment de Saint-Augustin, de la paideia. L'homme ne se trouve plus passivement dans un univers donné une fois pour toutes, univers qui laisse d'une certaine manière en place, voyez. Mais l'homme moderne, c'est l'homme précisément, c'est ça la praxis qui agit sur l'univers, qui le transforme très radicalement, et qui en agissant sur l'univers, c'est la technique, les sciences, il agit sur lui-même, il se transforme lui-même. Et vous voyez, il fait de lui-même même un objet de transformation, de mutation. Et c'est ça qui ouvre l'histoire au sens moderne du terme. Donc ça, c'est le chapitre 3. Et ensuite, vous avez donc le chapitre 4 qui récapitule tout et qui propose donc un échange entre l'Église et la société sur ces questions. Qu'est-ce que l'homme, que tu en prennes souci, donc la vocation intégrale de l'homme. Voilà l'enjeu de l'échange et la mission de l'Église, sauver l'homme. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, organisateur, c'est pour ça que nous en parlons dans ce parcours d'anthropologie, il est christologique. Sous la lumière du Christ, vous voyez, c'est la fin de l'exposé, sous la lumière du Christ, image du Dieu invisible premier-né de toute créature, le Concile se propose de s'adresser à tous pour éclairer le mystère de l'homme et pour aider le genre humain à découvrir, donc ne pas faire ça à sa place, la solution des problèmes majeurs de notre temps. Et donc il y a une très très belle christologie qui se déploie progressivement, ou une anthropologie christologique. Donc dans le premier chapitre, c'est toujours presque toujours à la fin de chaque chapitre, ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire on a une sorte d'induction, et à la fin vient la lumière du Christ, donc chapitre premier, donc quand on recherche, s'interroge sur la dignité humaine, donc c'est le Christ homme nouveau, et c'est la figure de l'épître aux Romains, le nouvel Adam, voilà, le Christ. Dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, il manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Voilà, le salut, c'est ça, pour Gaudium et Spes. C'est une interprétation contemporaine du « pour nous ». Pour nous et pour notre salut, il est descendu du ciel. C'est-à-dire, il nous a conduit jusqu'au bout de l'humanité, souverainement humain. Cette anthropologie est souverainement humaine. Voilà. Alors ensuite, chapitre 2 nous fait entrer dans l'histoire. On va passer de l'origine à l'histoire. Et donc là, vous avez une très belle histoire biblique de la solidarité. Le Verbe incarné, la solidarité humaine. Et le chapitre 3, évidemment, sur l'action, nous conduit vers l'énigme de l'achèvement, de l'accomplissement de l'action humaine. Donc c'est le mystère pascal et l'ouverture vers des terres nouvelles et des cieux nouveaux. C'est là où pourra intervenir aujourd'hui l'interrogation écologique. Et dans le numéro 45, le dernier du chapitre 4, on récapitule, le Christ est à la fois alpha et oméga. Voilà, donc la première partie, donc le juger. Et maintenant l'agir, c'est la deuxième partie du texte, à partir du numéro 46. Et là encore, si vous voulez, il y a quelque chose de très original pour la première fois. Il s'agit maintenant de projeter cette lumière du Christ sur les questions urgentes que l'homme contemporain se pose. Donc on entre ici dans une anthropologie très concrète et premier acquis, on pourrait parler ici d'une topologie, ce qu'ont fait certains théologiens, moi j'aime bien faire ça aussi, c'est-à-dire une topologie, c'est-à-dire on vous présente d'abord des lieux où le souverainement humain est en jeu. Quels sont les lieux dans l'humanité, les failles si vous voulez, où le souverainement humain est en jeu? Et c'est pour la première fois que l'Église fait ce genre de choses, c'est-à-dire où il s'agit, au fond, de réactiver chaque fois la vocation humaine et de s'interroger qu'est-ce que c'est ce souverainement humain. Donc d'abord la dignité du mariage et de la famille, premier chapitre. Deuxième chapitre, l'essor de la culture. Je reviendrai au numéro 53, parce que le culturel est ici absolument décisif dans l'ensemble de la Constitution. Ensuite, la vie économico-sociale, la vie de la communauté politique, et finalement, la sauvegarde de la paix et la construction de la communauté des nations. Et chaque fois, on vous propose d'abord, si vous voulez, une sorte de petite phénoménologie, des situations particulières. On reformule les questions qui se posent, que les hommes et les femmes, je dirais, se posent. Et ensuite, on projette sur ces questions la lumière du Christ, la lumière qui vient des principes, les lumières des principes qui viennent du Christ. Vous avez toujours la même argumentation théologique, extrêmement simple, c'est dit on aborde l'humanité, donc la vocation intégrale sur tel ou tel topos, dans telle ou telle situation, à partir du nouvel Adam, hein, qui est le Christ. Donc vous voyez, on ne va pas de la création vers le Christ, mais on va du Christ, nouvel Adam, vers la création. Alors, il y a quelque chose, si vous voulez, c'est là où on remarque les tensions dans le texte, et quelque chose absolument remarquable qui a été introduit, je dis, à peu près 10 jours avant la fin du Concile. Et c'est ce que j'ai dit, si vous voulez, dans le numéro 4. Vous trouvez, pour le moment, vous voyez, on est quand même dans le schéma ascendant et descendant, si je puis dire. Inductive et déductive, voilà. Et ensuite, on va vers ce qui est concret. Alors, dans la deuxième partie de Gaudium et Spes. Alors ici apparaît tout d'un coup la notion d'échange que j'ai déjà évoquée. Vous avez ici donc un schéma dans les numéros 41, 42 et 43. Il s'agit du quatrième chapitre, la première partie, qui récapitule un peu l'ensemble et qui positionne l'Église dans la société. Vous avez l'aide que l'Église veut offrir, apporter à tout homme. Vous voyez, c'est totalement asymétrique. Et donc, à peu près 10-15 jours avant la fin, on a ajouté le numéro 14, l'aide que l'Église reçoit du monde d'aujourd'hui. Et vous voyez, là, tout d'un coup, on entre dans cette symétrie qui est déjà impliquée dans le prologue, Gaudium et Spes, etc., etc. Donc, l'Église, vous voyez, le magnifique numéro 1, que je vous rappelle quand même, je dirais le début, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps. Vous voyez, c'est très, il y a une affectivité spirituelle. On commence par les hommes et on commence pas par l'Église. Des pauvres surtout, ça c'est l'insistance du pape François, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain chez les autres qui ne trouve écho dans leur cœur. Voyez donc ici le premier mouvement du texte, part des autres, et le texte nous dit on ne peut pas écouter la parole de Dieu, la voix de Dieu, si on n'entre pas dans une sorte de double écoute. Une double écoute, c'est-à-dire qu'on écoute en même temps en soi, qu'on devient écho de ce qui se passe dans la société. Voilà, c'est bien dit au début, mais ça n'a pas eu beaucoup d'effet pendant un certain temps sur le texte lui-même. Et là où on vous introduit le numéro 44, aide que l'Église reçoit du monde d'aujourd'hui. Donc il y a un échange spécifique qui vise ici une certaine symétrie et qui montre, alors ça a été deux fois amendé, finalement je vous dis la dernière version, que ici à la page 68 vous l'avez, c'est-à-dire il y a une certaine radicalité ici dans ce ultime ajout, parce que cet ajout nous dit en fond c'est principiel, c'est pas uniquement aujourd'hui, mais à travers toute l'histoire, il faut comprendre l'Église dans cet échange continuel avec la société, sur fond d'humanité, c'est-à-dire la question qu'est-ce que c'est l'être humain. À vrai dire, cette manière appropriée de proclamer la parole révélée doit demeurer la loi de toute évangélisation. Donc, voyez, l'enjeu n'est pas ici d'appliquer une théorie, une fois toute fixée, mais on entre dans une sorte de circularisation, ou circularité, si je puis dire, entre la société et l'Église sur les questions de fond. À la fois, évidemment, l'Église apporte quelque chose, mais avant qu'elle apporte quelque chose, elle reçoit quelque chose de son époque. Et donc, on est dans un échange interprétatif, ou dans une sorte d'apprentissage continuel. Alors, je récapitule. Si vous prenez, si vous voulez, les trois modèles, rappelez-vous le troisième et le quatrième chapitre de la partie d'introduction. Comment articuler l'anthropologie profane et l'anthropologie, comme on dit ici, religieuse, hein, théologique, théologale? Comment les articuler? Donc, il y avait les trois modèles, modèle d'exclusion, modèle perspectiviste et le modèle généalogique. Donc, on est largement à Vatican II dans le modèle perspectiviste. Il y a une même réalité humaine et la foi est une manière de regarder d'une nouvelle manière l'être humain. Mais en même temps, la foi apporte pas seulement lumière, mais ressources, énergie pour une transformation. Donc là, on est au fond, je dirais, dans le modèle perspectiviste. Mais il y a aussi dans la deuxième partie des modèles, je dirais qu'on pourrait dire structural. Hein. Voyez les topoi, les multiples topoi. On retrouve ici l'idée d'une société différenciée, moderne, dans la deuxième partie du texte. Et il faut savoir que c'est 1965-1966, sort de Michel Foucault, l'archéologie du savoir. Donc on est en pleine anthropologie structurale, et donc avec le modèle généalogique qui commence à naître. Et on a déjà quelque chose comme ça dans la deuxième partie de Gaudium et Spes. Alors, regardons un tout petit peu de près, malheureusement trop rapidement, parce que vous voyez, j'ai dit, on pourrait passer beaucoup de temps d'analyser ça. Donc, l'anthropologie théologique maintenant, comment elle est faite donc, dans la première partie? On va y entrer un tout petit peu davantage. Donc, d'abord, vous avez, on peut traverser le texte d'une manière un peu structurelle. Donc, je vous indique d'abord dans le point A, je vous donne un petit guide de lecture pour que vous puissiez repérer un peu les choses vous-même. Donc, le chapitre 3, le premier chapitre, il y a trois étapes. Parce que l'argumentation bouge un peu de chapitre à chapitre. Donc, le point de départ est biblique et théologique, ici. Donc, le récit de la création, mais c'est introduit d'une manière très, très contemporaine, je dirais pas seulement moderne, parce que, voyez, le paragraphe 1, « Croyants et incroyants sont généralement d'accord sur ce point », Tout sur terre doit être généralement un imprudent. Tout sur terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et à son sommet. Bon, l'écologie n'est pas présente ici. Mais on peut tenir ça quand même. Ensuite, mais qu'est-ce que l'homme? Voyez, on revient à la question. Et ensuite, on vous donne un tout petit peu des questions. Et c'est seulement au paragraphe 3 qu'on introduit ceci. La Bible, en effet, enseigne que l'homme a été créé. Donc, vous voyez, la Bible est greffée ici sur un questionnement. Donc, ça, c'est le point de départ. Ensuite, on vous parle du péché. Ensuite, 14 à 17, constitution de l'être humain, corporel et spirituel, et on introduit la structure éthique, et avec le célèbre numéro 16 sur la conscience. La conscience, sous une double forme, à la fois la conscience sous forme de la voix, voyez la métaphore de la voix, et ensuite sous forme de loi, c'est-à-dire la conscience morale, la naissance de l'éthique. Donc la conscience qui autorise, c'est-à-dire la voix de Dieu qui autorise l'être humain, c'est le germe divin d'exister, et la conscience morale ensuite. Et vient la fin de du premier chapitre avec les numéros 18 à 21, c'est-à-dire qu'il nous parle de la finitude humaine et du problème de la mort. Et la nécessité d'interpréter cette finitude. L'homme, être corporel et spirituel, je résume, vous voyez, cette définition entre guillemets de l'homme, capable de et peut-être aussi appelé à donner sens à son existence radicalement inaccomplie. On vous dit qu'il y a plusieurs possibilités d'interpréter ça. Ils existent, elles existent. Il y a l'athéisme. Et ensuite, on positionne l'Église dans ce débat sur le sens. Vous voyez, vous avez là une anthropologie fondamentale. Et ensuite vient la deuxième partie, donc avec les étapes, hein, une deuxième partie, un deuxième chapitre qui explicite cette structure, de nouveau en deux étapes. Donc, l'homme être de communication, et on revient au point de départ biblique, donc à la création, et très rapidement ici, parce qu'on est sur le plan relationnel, à la question éthique. Donc le double commandement et l'éthique. Donc on revient au numéro 16, qui est le numéro accroche dans le premier chapitre par rapport au deuxième chapitre. Les numéros 25 à 31, c'est la personne donc en société. D'abord la structure, donc on retrouve ici socialisation et personnalisation. Ensuite, immédiatement les implications éthiques, donc les différents points, le bien commun, le respect de la personne jusqu'au respect de l'adversaire, les éléments d'éthique sociale avec plusieurs termes, justice, le dépassement nécessaire d'une éthique individualiste, le principe de responsabilité et alors très 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 actuel à l'époque, la participation de tous à la vie de la société. Donc une manière déjà d'introduire la démocratie et ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'intelligence collective. Voilà, la participation. Et donc j'ai mis un peu à part les numéros 30, 31, les derniers, le dépassement d'une, avant le numéro christologique, le dépassement d'une éthique individualiste, double dépassement, et le dépassement d'une éthique politique sans participation de tous. Ce que le texte appelle éthique de responsabilité. Et ensuite, alors le chapitre 3 continue donc cette anthropologie. Les chapitres 1 et 2 sont le fondement anthropologique donc d'une philosophie, une théologie de l'action. Donc le numéro 33, la nouvelle maîtrise de l'homme sur la nature pose un certain nombre de questions très radical. Donc, il faut les reposer, ces questions. Ils sont reformulés ici, au point de départ. Donc, vous voyez, on revient au numéro 10, à la fin du diagnostic du moment présent dans lequel on est. Alors, on propose ici, dans les numéros 34 à 36, une sorte de règle. C'est un chapitre très éthique, mais qui va vers le théologal. Et nous sommes ici peut-être au centre, au fond de la toute première partie de la Constitution. On vous propose d'abord une règle de toute activité humaine qui découle de ce qui a été dit dans les chapitres 1 et 2. Et donc je déploie un peu les éléments de l'argument ici, 1, 2, 3. Donc d'abord, l'homme est fondamentalement un être indéterminé. Quand on le compare avec les mammifères supérieurs, un être indéterminé. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas le définir, ou il faut le définir comme être indéterminé. Moi, j'aime bien toujours traduire, si vous voulez, avec le Deutéronome, la formule initiale de la Genèse. L'homme créé est créé à l'image et à la ressemblance de celui dont il n'a pas le droit de se faire une image. C'est exactement ça. Donc ça veut dire, on n'a pas le droit de se faire une image de l'homme. Dès qu'on le définit, on entre dans le totalitarisme. Donc l'homme est créé pour donner forme à son existence. Ça c'est tout à fait essentiel. Et du coup, on comprend ce qui arrive. L'homme, comme être indéterminé, se transforme alors lui-même, devient objet de sa propre activité. Vous voyez cette réflexivité qui le caractérise, j'en ai parlé dans la partie introductive. Il devient lui-même objet. Et à ce moment-là, le totalitarisme devient possible. la manipulation devient possible. Et apparaît ici la question éthique au sens le plus radical du terme. Au cœur de l'éthique se trouve le problème de l'autotransformation de l'homme. Finalement, quelle finalité? Quelle est sa finalité? Pourquoi l'homme? S'il est lui-même objet de sa propre praxis. Alors, les chapitres 1 et 2, l'homme comme être à la fois personnalisé ou en voie de personnalisation et en voie de socialisation, fournissent maintenant la règle. C'est cette idée-là, la relationnalité de l'être humain, mais toujours évidemment problématique, dramatique, précède tout le reste. La règle, que l'activité soit conforme au bien authentique de l'humanité, selon le dessein et la volonté de Dieu, et qu'elle permette à l'homme, considéré comme individu ou comme membre de la société, de s'épanouir selon la plénitude de sa vocation. Donc évidemment, c'est une règle formelle, comme l'impératif catégorique de Kant. Parce qu'évidemment, il faut une règle, mais c'est une règle de discernement, c'est pas le discernement lui-même. Elle doit être formelle, cette règle, pour qu'ensuite les êtres humains puissent, évidemment, donner forme selon cette règle. Et c'est là où intervient la notion vocation intégrale de l'homme. Alors, finalement, vient seulement ici à la fin, les 37-39, la réflexion sur le péché et sur le mystère pascal et sur l'Eucharistie, et finalement les terres nouvelles et les cieux nouveaux. J'appelle aussi ce texte, en récapitulant, donc c'est ce qui ressort, si vous voulez, j'ai dit, de cette lecture un peu structurelle ou structurale du texte, on peut dire Gaudium et Spes, première partie, c'est une réécriture du Deutéronome. Je vous ai parlé du Deutéronome dans le premier chapitre. C'est une réécriture, il y a 50 ans, du Deutéronome. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Et donc, on vous propose une régulation. Vous voyez, on vous décrit l'être humain, mais je dis, l'être humain est tout de suite vu d'une manière éthique. Tout de suite vu d'une manière éthique. Et pourquoi? Parce que le problème principal de l'être humain, c'est il doit se donner forme, il doit donner forme à son existence, il est indéterminé, il ne peut pas le faire seul, c'est l'individualisme, c'est pas la société qui peut le faire à la place. Donc, il y a cette articulation fondamentale entre la personnalisation et la socialisation. Et là, on est sur le plan de l'éthique. Alors, l'éclairage théologique intervient précisément, donc je relis maintenant une deuxième fois le texte, le même texte, avec l'éclairage théologique. Où intervient donc le théologique ici? Alors, le numéro 11 que je vous ai lu tout à l'heure, en parlant du discernement des signes des temps et en parlant du souverainement humain, nous donne le principe de cet éclairage. La foi ne fait pas émigrer l'homme de l'humain, mais le rend souverainement humain. C'est la thèse. C'est une thèse christologique et anthropologique. D'où le vocabulaire de la vocation intégrale de l'homme. Simultanément s'explicite ici le « pour nous les hommes et pour notre salut » du symbole de Nicée. Je le redis, le Christ rejoint tous les hommes par son salut. Pourquoi? Parce que ce salut est souverainement humanisant. Il nous incombe de montrer cela. Et c'est ça l'universalisme chrétien. Vous voyez, c'est pas ce que j'appelle un universalisme de caoutchouc, voilà, ou de chewing-gum. Vous voyez, vous mettez le chewing-gum sur le globe et ensuite vous tirez de tous les côtés et vous essayez, je dirais, de couvrir le globe. Vous voyez, ça c'est un universalisme de caoutchouc, de chewing-gum, qui est totalitarisme, vous voyez, militariste, etc., ou bancaire, si vous voulez, c'est des réseaux, évidemment. Non, c'est un universalisme de profondeur. Le souverainement humain, vous comprenez maintenant le terme souverainement humain. Voilà. le souverainement humain. Qu'est-ce qui est souverainement humain? Ça, c'est le principe. Alors, du coup, l'enjeu du concile, et je mets maintenant, vous voyez, les trois points qui vont venir, explicite un peu cela. C'est d'abord, si vous voulez, je dirais, il n'y a pas de naïveté. On a reproché au concile parfois une naïveté. Bien sûr, le génie humain est loué. Mais le génie humain se conjugue toujours avec la nécessité d'une purification. C'est toujours le terme qui vient. Louer et en même temps purifier pour un accomplissement qui nous dépasse. Cette posture, vous voyez, c'est une posture spirituelle, pneumatologique, pourrait-on dire. Cette posture, ou une logique, pourrait-on dire aussi, qui traverse l'ensemble du mystère chrétien, s'explicite sur le plan théologique par le vocabulaire de la création et du péché. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le génie humain vient de là. Et en même temps, il y a le péché. Alors, explicitation, page 70. Le salut est souverainement humain parce qu'il ne libère pas seulement du péché, mais restaure aussi la création. Vous voyez, ça c'est l'aspect nouveau qui advient ici, la restauration de la création. Le salut atteint tout homme parce qu'il ne s'adresse pas seulement à ceux qui se savent pécheurs et se découvrent tels devant le crucifié, donc la logique baptismale des chrétiens. Mais le salut aussi atteint tout homme parce qu'il atteint toute la création. Il s'agit d'atteindre toute la création. Et l'Église offre d'une certaine manière à l'humanité le Christ créateur. Alors, le défi théologique du texte, j'insiste un tout petit peu là-dessus, vous voyez, on entre ici dans la pastoralité, qui a été beaucoup discuté pendant le synode. Qu'est-ce que c'est la pastoralité? C'est-à-dire de proposer la doctrine, non pas comme quelque chose d'abstrait, mais de montrer la relationnalité de la doctrine et surtout, comment dire, ce qu'elle veut effectuer effectivement. Donc, le défi théologique du texte, l'articulation entre la création de l'homme à l'image de Dieu. Donc là, je reprends toute l'anthropologie théologique du christianisme, telle qu'on l'a dans la confession de foi. Son péché et sa rédemption, ainsi que son ouverture à son accomplissement. Tout ce que nous confessons à propos de l'homme n'est rien d'autre, ajouté un « que l'éclairage théologique. Vous voyez, il s'agit de l'éclairage théologique, dont le but est d'ouvrir l'homme effectivement, pratiquement à l'intégralité de sa vocation. Vous voyez ce passage, donc, la doctrine a un but, ouvrir l'homme, de lui faire découvrir le germe divin qui est en lui, et de l'ouvrir à l'intégralité de sa vocation. D'ouvrir l'homme en l'initiant un travail individuel et collectif sur soi, qui répond au travail de Dieu lui-même. Vous retrouvez ici les formulations du chapitre 4 de mon introduction. La pastorale, voyez, susciter, rendre possible le travail de Dieu en l'homme, de l'accompagner plutôt. La pastorale est l'accompagnement de ce travail. Donc vous voyez, la doctrine est seconde. Elle est toujours seconde, elle risque toujours d'être abstraite. Alors, on peut vérifier ça dans l'ensemble des chapitres, et c'est le passage, au fond, dont je n'ai pas encore parlé, de l'éthique vers le salut, qui implique que le salut, vous voyez, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un passage d'une éthique qui se dépasse elle-même. D'une éthique qui se dépasse elle-même, tout en passant par une démarche de purification. Alors, dans le premier chapitre, donc il y a les trois étapes. Les numéros clés théologiques, c'est les numéros 16, 24 et 38. 16, 24 et 38. Donc, dans le numéro 16, la conscience spirituelle. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Vous voyez, ça c'est ce que j'appelle la conscience spirituelle, qu'on a souvent occultée depuis saint Augustin. La voix. Tout être humain, s'il entend bien, entend une voix intérieur qui l'autorise à exister. C'est le proto-évangile. C'est bon, c'est très bon. Donc tout être humain est appelé à entendre cette voix qui résonne en tout être humain. Et le problème, c'est évidemment que l'humanité couvre cette voix par les multiples voies mortifères de mort. Et il a l'expérience du mal, etc. Et d'où le ministère du Christ qui commence par guérir, comme dit Vatican II aussi. La guérison. Et la guérison, c'est d'entendre de nouveau cette voix qui autorise. Tu peux. Voilà. Alors, se greffe là-dessus, évidemment, la conscience morale. C'est-à-dire, dans cette voix, il n'y a pas uniquement le « tu peux », mais il y a aussi le « tu dois ». Le problème, c'est quand les choses sont inversées. Ça devient très difficile d'entendre le « tu peux » quand on a trop entendu le « tu dois ». Et donc le double commandement, voilà. Voilà. Alors ça c'est le premier chapitre. Dans le chapitre 2, s'opère le dépassement de l'éthique vers le don intéressé. Désintéressé, pardon, évidemment. Le numéro 24. Alors ça c'est remarquable. C'est un des... Vous voyez, vous avez déjà ici une théologie du don. Voilà. Allons plus loin, quand le Seigneur Jésus prie le Père pour que tout soit un, vous voyez, on est ici dans cette tension entre personnalisation et socialisation. C'est là où le double commandement a sa place. Voilà. Quand le Seigneur Jésus prie le Père pour que tout soit un, comme nous, nous sommes un, il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison. Bon, là, on pourrait suggérer que c'est peut-être quand même accessible à une certaine raison ou une intelligence de la foi. Et il nous suggère qu'il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils et des filles de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Cette ressemblance montre bien que l'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, vous avez là la racine du désintéressement, et c'est ça le sens du « tu peux », voyez, « tu peux », la création gratuite, gratuitement. Voilà. Donc le don désintéressé ne peut pleinement se trouver, donc cette créature, que par le don de lui-même. Le don de lui-même. Et voyez, à l'intérieur de l'éthique, situé dans la personnalisation et la socialisation, de l'intérieur, on dépasse, c'est une sorte de méthode d'immanence, on dépasse ici l'éthique par ce qui est radicalement désintéressé, le don. Mais évidemment, pour pouvoir se donner, il faut d'abord avoir entendu qu'on est soi-même un don. C'est la voie de la conscience. Et le chapitre 3, c'est lui le Verbe fait chair qui nous révèle que Dieu est charité. Ah, vous voyez là, on a l'inversion. On commence par la conscience, le dépassement interne de l'éthique par le don et finalement l'inversion ultime. Le Verbe nous révèle que Dieu est charité et qui nous enseigne en même temps que la loi fondamentale de la perfection humaine et donc de la transformation du monde est le commandement nouveau de l'amour. Voilà l'éclairage théologique. Alors, on termine cette première partie, donc l'anthropologie théologique de Gaudium et Spes. Il y a quand même des problèmes. Il y a quand même des problèmes qu'il faut souligner, et parce qu'ils reviennent, évidemment. Donc, il faut être très honnête. Question. Si la foi rend la vie souverainement humaine, ne sommes-nous pas sur une pente dangereuse de sécularisation? Si l'anthropologie théologique n'est que l'éclairage théologique d'une approche anthropologique accessible et accessible à tous, il ne suffit pas de développer une telle approche. Ne suffit-il pas de développer une telle approche sans l'orchestration théologique? La thèse de Feuerbach. Sur ce point décisif, je pense que il y a des indications possibles pour se prémunir contre cela, mais il faut le nommer quand même. Voyez d'abord dans le premier chapitre, et on retrouve de nouveau une ambiguïté, c'est le célèbre numéro 21 sur l'athéisme, l'attitude de l'Église par rapport à l'athéisme. Et donc ici apparaît un argument, je dirais difficile à conduire aujourd'hui jusqu'au bout et à maintenir. Si seul le Christ peut achever, accomplir l'humain, si seul le christianisme conduit l'homme vers l'intégralité de sa vocation, l'absence de cet accomplissement ou sa négation athée sont une mutilation de l'homme. Et vient le terme ici, dans le paragraphe 3 du numéro 21, paragraphe 3, la blessure. Je vais vous lire ce texte. À l'opposé, lorsque manque le support du vin et l'espérance de la vérité éternelle, la dignité de l'homme subit une très grave blessure. Comme on le voit souvent aujourd'hui, et l'énigme de la vie et de la mort, de la faute et de la souffrance reste sans solution. Ainsi, trop souvent, les hommes s'abîment dans le désespoir. Oui, c'est juste. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Voilà. Donc, la blessure. Question. Et ensuite, évidemment, je dirais, derrière, c'est fondé. Il y a une thèse théologique extrêmement importante. Vous le trouvez dans le paragraphe 5 du numéro 22. C'est-à-dire la présence du mystère pascal en tout être humain. Alors ça, c'est l'antidote. Le texte dit, au fond, le mystère pascal est présent en tout être humain. Association de tous au mystère pascal, et avec cette réserve magnifique, d'une façon que Dieu seul connaît. Oui. Donc, vous voyez, là, il y a une sorte d'autorelativisation de la tradition chrétienne, et surtout de l'Église, par rapport au mystère même de Dieu. C'est-à-dire, finalement, Dieu seul sait ce qu'il en est du mystère pascal en tout être humain. On peut l'affirmer à partir du Christ, vrai homme, et donc nouvel Adam, on peut l'affirmer, j'ai dit dans la foi, mais ce qu'il en est concrètement, ça ne relève pas de nous. Voilà, ça c'est une manière, au fond, si vous voulez, je dirais quand même de protéger l'affirmation un peu brutale que tant que cette foi n'est pas là, alors l'homme est blessé. Et vous trouvez alors, dans le chapitre 3, au fond, le même problème autour de la vraie autonomie de l'homme. Qu'est-ce que c'est finalement la vraie autonomie de l'homme? C'est-à-dire le Concile défend ici, évidemment, la vraie autonomie de l'homme contre l'affaire de Galilée, etc. Il dit, il reconnaît pour la première fois qu'il a eu des erreurs de ce point de vue-là, des confusions. Et on retrouve ici la thèse centrale que la foi rend souverainement humain. Voilà. Mais en même temps, le texte dit aussi dans 36, paragraphe 2, vous avez cette formule, et qui revient un peu à la thèse de la blessure. Vous voyez, voilà, je cherche, c'est le paragraphe 3. Mais si par autonomie du temporel on veut dire que les choses créées ne dépendent pas de Dieu et que l'homme peut en disposer sans référence au Créateur, la fausseté de tels propos ne peut échapper à quiconque reconnaît Dieu. Oui, j'ai dit, si on reconnaît Dieu, évidemment, oui. C'est impliqué, si on parle de créature, on parle de Créateur. Alors, on a évidemment, je récapitule un tout petit peu, un passage ici, c'est clair, je le redis, du modèle de refus réciproque au modèle perspectiviste. Cela implique, donc, à la page 71, le point 3, dans la récapitulation, une nouvelle perception du mystère du salut et du rapport entre le Christ rédempteur pour nous et tout homme, l'universalisme chrétien, le souverainement humain est très présent. Par l'identification du Christ comme nouvel Adam, par la distinction importante entre la connaissance explicite du Christ et l'association invisible à son mystère pascal de tous les êtres humains. Donc je crois que ça, vraiment, c'est tout à fait remarquable comme opération. On est sorti, si vous voulez, des problèmes de prédétermination négative, rappelez-vous, le deuxième concile d'Orange, etc. Il reste la difficulté. Si la foi chrétienne propose la révélation intégrale de la vocation humaine, comment honorer la conscience générale dans nos sociétés occidentales que l'homme peut devenir humain sans Dieu? Vous vous rappelez, j'avais commencé la première séance par là. Comment honorer cela? C'est un problème, je dirais, qui tout l'humanisme intégral, vous voyez, c'est le terme utilisé par Maritain, qui est derrière ici, Henri de Lubac, et la première action catholique qui pose sur ce problème, vraiment pose problème quand même. Parce qu'il y a des humanismes dans la société. Donc comment associer d'autres humanismes? Comment créer un débat entre les humanismes à l'heure actuelle? Et le problème doctrinal est donc celui-ci, et j'y reviendrai dans le dernier chapitre, et ensuite dans toute la suite du cours, comment tenir que le Christ, nouvel Adam, et révélation ultime du mystère de l'homme, ne conduit pas à considérer d'autres humanismes comme forme déficiente ou mutilée du mystère de l'homme. Parce qu'à ce moment-là, on a du mal à entrer dans une réciprocité d'échange que le Concile stipule précisément, je l'avais montré tout à l'heure, dans la quatrième chapitre, la première partie. Alors, très rapidement, avant la pause, j'ai dit un regard sur la deuxième partie. Voyez, les acquis, simplement. Premièrement, tous les niveaux de l'anthroposphère, j'utilise maintenant ce terme, moderne, contemporaine, l'anthroposphère, tous les niveaux sont présents. Ça, c'est le premier acquis. C'est pour la première fois. Et sous l'angle éthique. À propos de chaque question, vous trouvez, je l'ai déjà dit, une même procédure de discernement pastoral inspirée par la thèse principale. Et donc, vous avez, je dirais, une description. Vous avez, je dirais, le triple raisonnement ensuite. Si le Christ est l'accomplissement de l'homme, celui-ci peut trouver dans sa propre conscience ce qui est humain. Donc, le présupposé favorable par rapport à la conscience de l'autre. Donc, c'est un raisonnement éthique. Un deuxième raisonnement s'enclenche ensuite. Quand l'être humain prend conscience des menaces de déformation qui pèsent sur sa conscience et donc aussi sur ses actions. Donc, vous voyez, on sort ici de toute naïveté. Donc vient la démarche de purification et de dépassement, mais toujours de manière éminemment concrète à propos de chaque champ de l'anthroposphère. Et ensuite vient le dernier dépassement, qui est le plus important, le dépassement de l'ordre éthique dans le Christ, voilà, c'est-à-dire quand on arrive sur le niveau du don et de la charité révélée dans le Christ, et c'est là où apparaissent donc les raisonnements, les solutions pleinement humaines. Alors, un dernier point qui nous conduira vers la suite après la pause. Vous savez que le premier chapitre a été difficilement reçu. Pas le chapitre, mais sur le rapport mariage et famille. C'est greffé ou mané vité. Paul VI avait réservé une partie des questions de la contraception, même si le Concile introduit à la suite de la participatio activa dans la liturgie. Et la participation active à la société, le Concile introduit ici la responsabilité parentale comme principe fondamental. Donc ça, c'est acquis. Mais ensuite, il y a humanevitae. Je vous fais pas de dessin. Et le synode. Donc vous voyez, il y a une ligne qui va du premier chapitre de la deuxième partie de Gaudium et Spes à humanevitae, familiaris consortio, Jean-Paul II et finalement le synode. Donc là, il y a un champ de contestation et de débat extrêmement important et sensible dans nos sociétés. Alors ensuite, si vous voulez, j'ai dit les chapitres 3, 4 et 5 ont été bien reçus. Voyez, ce qui est dit sur l'ordre économique, ce qui est dit sur l'ordre politique et ce qui est dit sur la paix. Il manque, évidemment, en 65, la question écologique. Alors, entre les deux, il y a le célèbre chapitre 2 avec le numéro 58, c'est-à-dire, c'est le chapitre sur l'essor de la culture. Et le chapitre... Le numéro 58, le paragraphe 3, introduit quelque chose de hautement problématique qui reste au fond aussi un problème jusqu'à nos jours. Mais en même temps, l'Église, envoyée à tous les peuples de tous les temps et de tous les lieux, les topoi, n'est liée d'une manière exclusive et indissoluble à aucune race ou nation, à aucun genre de vie particulier, à aucune coutume ancienne ou récente. Alors ça c'est clair, évidemment le christianisme n'est pas inféodé à une culture, à une langue. Constamment fidèle à sa propre tradition et tout à la fois consciente de l'universalité de sa mission, elle peut entrer, l'Église, en communion avec les diverses civilisations, d'où l'enrichissement qui en résulte pour elle-même et pour les différentes cultures. Mais comment préciser ça concrètement? Vous voyez, quand vous avez une doctrine formulée en latin, est-ce qu'elle est transculturelle? Quel est son rapport effectif à la multiplicité des cultures? Donc ça, là, il y a une question centrale. Faut-il traiter le mariage en Afrique de la même manière qu'en Europe, en Amérique latine, en Inde, en Australie? Voilà. La question est là. Bien, il est temps de faire la pause. Voilà, nous allons entrer maintenant dans le dernier chapitre de cette partie. À partir d'un constat, je dirais, qu'on peut faire après avoir lu et relu Gaudium et Spes, qui est, j'espère que vous l'appréciez bien, ce texte est un texte absolument remarquable malgré les ambiguïtés et que j'ai souligné, et pour moi c'est proprement miraculeux, entre guillemets, qu'on a pu aboutir en 3 ans de rédiger ce texte. Comme manifestation d'une intelligence collective, c'est tout à fait prodigieux, ça. Parce que c'est au fond le seul texte que le Concile a rédigé tout entier pendant le Concile. La rédaction a commencé seulement en 63. 63, 64, 65. Là, il n'y a eu aucun projet antérieur. Alors ça, c'est donc il faut le retenir. Il faut retenir aussi, maintenant un peu comme point de départ, c'est-à-dire au fond la complexification de la question anthropologique. À quel point, quand on lit ce long texte, le plus long texte du Concile Vatican II, l'anthropologie théologique est devenue complexe. Et donc, vous voyez, je mets ça tout de suite au début du chapitre. 6. Les grands clivages de la sotériologie contemporaine appellent à préciser le sens et la signification pastorale de l'évangile du salut. Donc, il y a une double complexification. D'abord, je dirais, si on regarde un peu ce qu'on a fait depuis plusieurs séances, depuis le début, le travail biblique, ensuite Augustin, Pélage, Saint Anselme, Luther, le Concile de Trente, Gaudium et Spes, c'est-à-dire on a finalement une pluralité de modèles théologiques une pluralité de modèles théologiques pour rendre compte du pour nous sotériologique de l'œuvre du Christ. Chaque fois, je l'ai souligné. Et ces modèles coexistent, je dirais, dans l'Église. Si vous faites un peu, je dirais, le tour d'Église, vous n'allez pas chaque dimanche dans la même paroisse et vous écoutez un peu les prédications, n'est-ce pas? Ah oui, non, c'est impressionnant. Ça m'arrive en été de faire cela, un peu incognito, pour me rendre compte de ce qui se passe. Donc, vous avez tous les modèles sotériologiques qui cohabitent, voyez, qui cohabitent, des approches plurielles. Alors ensuite, vous avez évidemment le fait que ces modèles induisent des discernements des signes des temps différents, donc des rapports aussi de l'Église et de l'Évangile à la société, selon les modèles. Pluralisme. Il n'y a pas un seul. En plus, si vous voulez, je dirais, s'ajoute une deuxième complexification. Alors, Vatican II est conscient de ça, c'est la pluralité des cultures. Donc, la pluralité des types d'hommes, de socialisation. La question récente du mariage pour tous est un exemple de ça. Le modèle du mariage chrétien, c'est pas l'unique modèle dans la société et dans le monde. Et donc, du coup, comment inscrire le salut dans cette pluralité? Est-ce qu'il y a un modèle, je dirais, qu'on peut fixer, je dirais, dans une sorte de loi naturelle? Vous voyez, c'est ça le débat à l'heure actuelle. Alors, le chapitre conclusif de cette partie, je voudrais d'abord, ça sera l'essentiel pour ce soir, je vais sans doute conclure rapidement la prochaine fois, d'abord reprendre les différents modèles. Et ensuite, vous voyez, c'était mon point de départ dans cette partie, donc que je vous invite maintenant à retravailler un peu, à relire selon vos disponibilités en temps, c'est-à-dire la matrice, c'est l'écriture. Et j'avais dit d'emblée, il faut rétablir aujourd'hui la totalité du donné scripturaire. Alors ça, c'est le deuxième élément. Et ensuite, comment concevoir donc le lien entre le Christ et tous les hommes, ouvrant un itinéraire de conversion? That's a question. C'est ça la question aujourd'hui. Alors, les quatre modèles. Il y a quatre, je pense. Alors, A, le modèle de substitution. Ensuite, à la page 74, le modèle de solidarité. Ensuite, le modèle politique, qui nous vient surtout depuis Vatican II, de la théologie de la libération, un exemple que je donne. Et finalement, ce qu'on peut appeler le modèle médical, le modèle du soin, le salut soin, vous voyez. Donc, les quatre modèles. Chaque fois, je les expose brièvement et ensuite, j'apporte une évaluation, vous voyez, et progressivement, il y a quelque chose qui va se constituer, je l'espère, à partir de cela. Alors, maintenant, c'est le dossier à partir de la page 189. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez lire ces textes. Je vous donne quatre textes jusqu'à la page 208 de votre dossier. Donc, 189, là, vous trouvez les textes pour chaque modèle, un texte clé. Alors, je commence par le modèle de substitution et je reviens ici au premier chapitre, c'est-à-dire à la question que j'ai déjà posée, que je préciserai maintenant, le sens du pour nous. Et je veux dire, pour les exégètes même, il y a trois manières de comprendre ce pour nous. Le pour nous représentatif, le pour nous égal en notre faveur et le pour nous à notre place. Ça, c'est la substitution. Donc d'abord, le pour nous représentatif, ça veut dire Jésus est le représentant de la volonté universelle de salut de Dieu. Et voyez, ça c'était mon début, le début du récit de la vie de Jésus. Il annonce la venue du règne de Dieu pour tous, sans condition. Donc, en ce sens, il est lui, pourrait-on dire, le pour nous, c'est un premier sens, le représentant de cette volonté universelle de Dieu. Autrement dit, sa foi représente notre foi devant Dieu. Sa foi représente notre foi devant Dieu grâce à sa solidarité avec nous, hommes et femmes incrédules. Et donc vous avez chez Marc déjà cette idée-là, magnifique, je crois, vient au secours de mon manque de foi. Donc Jésus comme croyant par excellence, l'épître aux Hébreux, l'archégostes pisteos, c'est-à-dire l'initiateur de la foi qui l'a conduit à son accomplissement. Voilà. Donc ça c'est une première manière de comprendre le « nous ». Le croyant par excellence qui représente pour nous la foi et du coup la volonté universelle salvifique de Dieu. Alors ensuite, en notre faveur, vous voyez, le lien entre lui et nous se resserre davantage. La foi de Jésus n'est pas seulement représentative ou exemplaire de notre foi devant Dieu, mais sa foi rend possible la nôtre. Voilà, j'ai souligné le possible. Vous voyez là, le lien entre lui et nous se resserre. C'est une deuxième compréhension. Sa foi jusqu'à la mort implique, sans savoir, qu'il vit et meurt pour rendre possible notre foi. C'est le deuxième sens du « pour nous », en notre faveur. C'est-à-dire, lui rendant possible notre foi, lui se sachant devant son Père redevable de notre foi. Et ensuite, vous voyez, le « pour nous » à notre place, c'est là, si vous voulez, on retrouve la substitution, et peut-être tel au texte, je vous renvoie au premier chapitre, où je les ai écrits, ces textes de Paul. En allant jusqu'au bout, Jésus accomplit quelque chose de nécessaire qu'aucun de nous n'aurait pu accomplir. Alors le lien se resserre encore davantage. Il prend notre place. Il prend notre place. Il fait quelque chose à notre place. Et vous voyez, interviennent ici les termes la satisfaction vicaire. Alors ça, c'est saint Anselme. Mais chez saint Anselme, on n'a pas l'idée de substitution parce que il y a le rachète-toi, vous voyez. Il fait quelque chose que nous ne pouvons pas faire parce qu'il rend à Dieu ce qu'il ne lui doit pas. Sa propre mort, en raison de sa divinité. Rappelez-vous, je vous ai exposé ça longuement, voilà. Mais il y a quand même un vicariat, si je puis dire. Il fait quelque chose que nous ne pouvons pas faire, mais il ne se substitue pas vraiment à nous, parce que le Père nous donne ce qu'il a reçu de lui, il nous donne, et du coup, comment dire, il nous donne le Fils, pour que nous, vous voyez, nous pouvons, je veux dire, en recevant le Fils, nous racheter. Je vous appelle plus serviteur, mais ami, vous vous rappelez, j'avais beaucoup développé cela. Mais évidemment, dès que ça devient pénal, donc là, on est plutôt dans la tradition luthérienne, le pénal, vous voyez, à ce moment-là, évidemment, il y a substitution. Alors, la référence à l'écriture et à la tradition, donc je vous renvoie à la page 27 suivante, donc vous avez les références, je viens de le dire. Donc, mais le modèle de substitution émerge chez Luther. Je l'ai montré. C'est pourquoi ? Parce que Luther propose une description sans illusion de la situation dramatique du pécheur. L'incapacité, le péché originel est poussé jusqu'au bout, l'incapacité du pécheur de faire quoi que ce soit. Donc, il s'agit de comprendre la rédemption comme une véritable mise en contact entre le Christ et l'homme pécheur. Et vous voyez, vous avez cette l'image de Léviathan, je vous rappelle ça, je l'ai exposé. Le Christ ne porte pas seulement les conséquences du péché, mais le péché lui-même, au point de ne pouvoir plus distinguer en lui-même entre les pécheurs et lui. Donc, il se substitue réellement à nous. Ça, c'est donc la naissance de la théorie du substitution. Elle est reprise maintes fois dans la tradition luthérienne, surtout, et ensuite, évidemment, il y a la triade actuelle, Karl Barth, Jürgen Moltmann, Hans Urson Balthasar. Donc, la substitution. Donc, la troisième, le pour nous à notre place. Alors, il y a deux, si vous voulez, je dirais, il y a deux motifs à ça, et là encore, il faut distinguer. Donc, c'est d'abord une prise de conscience de l'état dramatique de l'être pécheur. Évidemment, il fait partie de la stratégie du malin de dédramatiser tout ça. Et donc, une sorte de pélagianisme facile. Mais c'est fait de manière différente. Chez Moltmann, vous avez toute une herméneutique intéressante dans le Dieu crucifié, dans Dieu dans la création. C'est-à-dire, le péché, ce sont au fond les cercles vicieux dans lesquels l'humanité s'enferme. C'est très plausible, hein, la pauvreté, l'exploitation, ensuite la violence politique avec ses aliénations, et finalement l'exploitation de la nature et le désastre écologique. Vous voyez, cette sorte d'un cercle infernal dans lequel l'humanité s'est engouffrée progressivement. Donc c'est vrai, c'est lucidité. Et donc on ne peut pas s'en sortir de ça, et c'est là où il fait intervenir, je dirais, le Christ, hein, sous forme de substitution. Et chez Barth et Balthasar, là, c'est le péché de l'incroyance. Donc l'incroyance comme révolte contre Dieu. Alors ça, c'est le premier motif. Et vous avez un deuxième motif qui se greffe sur le symbole le symbole des apôtres, descendu aux enfers. Vous voyez ? Alors c'est là où on voit bien dans le symbole la tentative, c'est d'un vieux théologoumenon, comme on dit chez les pères de l'Église, il y a cette extraordinaire tentative qu'on a dans les icônes, où vous voyez donc Jésus descendre aux enfers et d'en tirer Adam et Ève. Donc vous voyez, c'est une manière de créer le lien entre la rédemption et la totalité de l'humanité, passé et présent. Et donc derrière aussi chez Balthasar, il y a l'idée, il faut traverser au fond l'humanité, peut pas rester dans un gris. Il y a le noir et le blanc, l'apocalypse, voyez, je te vomis parce que tu n'es ni chaud ni froid. Et avec la vie de Jésus, comme d'ailleurs dans Isaïe, vous avez ça, on arrive à une situation radicale. À un moment donné, il faut se décider. Voilà. Et donc il faut aller au bout, ce qu'on a eu dans le texte d'Isaïe, d'hier dans l'Eucharistie, voilà. Car tu nous as caché ton visage, et c'est ça l'enfer, tu nous as caché ton visage, tu nous as livré au pouvoir de nos fautes. Donc il faut radicalement traverser le négatif de l'humanité. Alors nous, évidemment, on éprouve un certain nombre de gênes, donc qu'il faut nommer, c'est la conscience moderne. Et il y a peut-être deux difficultés. C'est d'abord, je dirais, l'anthropomorphisme qui se trouve ici derrière. Il y a comme une sorte de remythisation, si je puis dire, de la tradition chrétienne ici, à travers la notion de colère de Dieu, utilisée à la fois par l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc le problème de la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu, pour saint Paul, c'est précisément Isaïe. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. C'est-à-dire quand l'humanité se laisse aller jusqu'au bout. Il y a des forces de mort. C'est ça la colère. C'est pas là, chez saint Paul, c'est pas la colère en Dieu. Mais quand le visage de Dieu se cache, qu'est-ce qui se produit dans l'humanité? Alors, deuxième difficulté, c'est ce qui est absolu pour l'homme moderne, c'est l'insubstituabilité de notre liberté. Et donc, c'est le contraire de la notion de substitution. L'insubstituabilité du sujet. Personne ne peut faire l'essentiel de mon existence à ma place. J'en avais parlé dans l'introduction déjà. Alors, voyez, comment comprendre ici, là. Alors, je voudrais faire déjà ici une première proposition, un peu plus personnelle, parce que je ne crois pas qu'on peut complètement laisser tomber le modèle de substitution. Je ne crois pas. Il indique quelque chose chez saint Paul et qu'il faut sans doute dire d'une autre manière. Et donc d'abord du côté de Dieu et ensuite du côté anthropologique, du côté de l'homme. Du côté de Dieu, donc là je reviens au sombre florilège du père Sesboué, le court-circuit dont j'avais, dont il parle. Il faut donc absolument éviter d'introduire une violence en Dieu. Voilà. Dieu est évangile. Voilà. Sinon, tout perd son sens. Voilà. Et donc, il y a des problèmes de traduction, notamment chez Isaïe 53:6. Et Dieu a fait retomber sur lui, donc le serviteur, les crimes de nous tous. Voilà. Alors, ça, c'est... Vous voyez, là, on est dans le pénal. Il a fait retomber sur lui les crimes de nous tous. Ou faut-il traduire, et Dieu a permis que nous laissions retomber sur lui les crimes de nous tous. Et c'est pas la même chose. Problème. Alors, il faut lever, une fois pour toutes, l'ambiguïté de la violence, en partant du centre du Nouveau Testament. Ni Dieu veut que le Fils porte le péché du monde. Dieu ne veut pas, dans sa colère, que le Fils porte le péché du monde. On ne peut pas non plus dire « Dieu laisse passivement le monde charger son Fils du péché du monde ». Je crois que ce n'est pas suffisant, vous voyez. La thèse de la permission. C'est fait bon marché, la question de Théodicée. Je pense qu'on pourrait dire ceci, c'est ça ma proposition. Dieu rend Jésus, Christ, capable de s'exposer librement au péché du monde. Dieu rend capable, vous voyez, vous avez une position positive. Le « tu peux » dans le Christ est tellement fort... qu'il peut s'exposer librement au péché du monde. Alors, je propose donc une signification anthropologique de cette formule. Voilà. On pourrait dire aussi, voilà, vous rappelez peut-être le titre ambigu de l'ouvrage de Bonnefer, Résistance et soumission, mais c'est pas très bien, hein. C'est soumission et abandon. Voilà, abandon. Parce que l'abandon est encore un acte de résistance, finalement. Dieu rend Jésus capable de résister au mal. De résister au mal. Voilà. De s'exposer librement au péché du monde. Alors, il s'agit donc, premièrement, de restituer le modèle de substitution, bibliquement, au cœur de la crise galiléenne. Quand Jésus... Je rappelle, n'est-ce pas, cette phase dont on a longuement parlé dans le premier chapitre, relisez ça, crise galiléenne, quand Jésus, ne voulant pas s'imposer à la liberté humaine, n'a plus aucun autre recours que de s'exposer librement à la liberté et à la violence d'autrui. C'est-à-dire, il s'expose au cœur dur, le péché étant finalement la dureté du cœur de l'être humain. C'est ça. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. La clé est là. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Et comment Jésus domine au cœur de l'ennemi? En s'exposant librement à la dureté du cœur de ses contemporains. Et donc il y a une cohérence anthropologique et éthique de la notion de salut qui se présente ici. Et c'est à la fois éthique et en même temps ça se dépasse radicalement l'éthique. Face à la violence d'autrui, voilà la formule que je propose. Le salut ne peut pas venir d'une contre-violence, mais il ne peut venir que de la capacité inouïe d'une des libertés de s'exposer à la violence d'autrui. Pour l'émouvoir, pour laisser la violence aller jusqu'au bout, et se vider d'elle-même. C'est évidemment le risque absolu. Voilà, le risque absolu. On voit ça, en tout cas, dans les récits évangéliques. Cette proposition méta-éthique, elle n'est pas éthique, parce qu'elle n'est pas exigible, nullement, vous voyez. Méta-éthique exige ici une réception nuancée du modèle de substitution. Nuancée. Et cette réception est liée, au fond, à notre expérience quotidienne. Je donne ici un exemple, parce que nous cessons de réclamer l'application de la règle d'or de réciprocité et souvent sous forme de plainte. Mais mettez-vous à ma place. Ou d'une manière plus moralisante, si j'étais à votre place, je ferais. Donc voyez, nous connaissons bien cette formule, voyez, de se mettre à la place. L'enjeu est effectivement l'échange de place. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit échange de place? Un échange de place qui respecte jusqu'au bout l'inaliénable insubstituabilité des libertés, la capacité de se mettre à la place d'autrui avec compassion et sympathie active sans jamais quitter sa propre place. Voilà le salut. Voyez, au cœur de cette tension de socialisation et de personnalisation, la capacité, c'est-à-dire de pousser la règle d'or jusqu'au bout, j'en ai parlé de la règle d'or déjà, de se mettre à la place d'autrui à travers une compassion, une sympathie active, aller jusque ce que Jésus fait, hein, à s'exposer même à la violence d'autrui, à la dureté du cœur d'autrui, donc la parabole du Samaritain, voilà, sans jamais quitter sa propre place. Et cela devient possible, parce que c'est une question, est-ce que c'est possible? Pourquoi ça devient possible? Ça devient possible parce que j'ai déjà été à la place d'autrui. Et c'est précisément ce que Deutéronome nous apprend, voyez. Car au pays d'Égypte, vous fûtes des étrangers, et parce que je pourrais un jour me retrouver à cette place. Vous voyez, cette capacité nous vient anthropologiquement par la mémoire et l'anticipation. Par la mémoire et l'anticipation. Et c'est ce que vit le bon Samaritain, d'une certaine manière, c'est-à-dire, mais non pas d'une manière réfléchie, mais d'une manière radicalement spontanée, ses entrailles se révèlent. Tandis que le prêtre et le lévite montre qu'ils n'ont pas d'entrailles, mais le montre concrètement, au sens biblique du terme. Voilà. Donc, il y a la mémoire et la capacité d'anticipation, vous voyez, qui fait partie, je dirais, du salut, ici. On pourrait dire la conscience que je n'ai qu'une seule existence. Voilà. Et que ça se cristallise subitement, vous voyez, dans un geste. Et la deuxième condition, plus fondamentalement maintenant, parce que j'ai pu faire l'expérience que quelqu'un d'autre est venu se mettre à ma place. Et ça, c'est peut-être le privilège, je dirais, des pauvres, de pouvoir faire cette expérience-là, précisément. Du coup, on peut reformuler l'expérience du salut au cœur de la modernité. Et je renvoie ici de nouveau à la partie d'introduction, quand je vous ai parlé d'authenticité et de modestie. Le salut, c'est quoi? Recevoir la capacité d'exposition à autrui, la recevoir. Un cœur de chair ou des entrailles, la capacité liée à la faculté de se souvenir et d'anticiper. Et cela, grâce à la venue de quelqu'un, de Jésus de Nazareth, venu discrètement se mettre à ma place sans jamais quitter la sienne. Donc, il dit bien à la fois la distance entre lui et moi, entre lui et nous, et qui fait résonner en même temps, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, vous voyez ce mystérieux passage du Christ en immanence, dans celui qui est sauvé. C'est une communication de sa personne, de cette capacité des entrailles. Et entre lui et moi, il y a l'Esprit Saint qui provoque cela. Voilà, si vous voulez, je dirais, une manière, au fond, de discerner l'ambiguïté d'un point de vue théologique du modèle de substitution. Et en même temps, je viens de dire, on ne peut pas y renoncer complètement parce qu'il dit vraiment quelque chose de tout à fait central de la relationnalité de l'être humain. Alors maintenant, le modèle de solidarité. Et ça, c'est le modèle de Gaudium et Spes. Le modèle de Gaudium et Spes. Et il y a évidemment quelqu'un comme Karl Rahner qui est derrière ici, dont je vous ai donné les textes essentiels. Donc, c'est l'annexe 12. Alors, on trouve chez Rahner une double critique du modèle de substitution menacé, je l'avais déjà dit, par des archaïsmes mythologiques inacceptables. Et la première idée, c'est au fond, Rahner le précise très très bien, dans le modèle de substitution, on risque toujours de s'imaginer que Dieu a changé d'idée, il est venu à, comment on dit en français, à récipicer. Voilà, il a changé d'avis, il est venu à récipiscence grâce à la mort du Christ. Ça, c'est la mythologie. Oui. Comme une sorte de... Père Martelet a utilisé une fois cette formule, comme si la rédemption était un hoquet en Dieu, n'est-ce pas? C'est un peu brutal et vulgaire comme expression, mais ça dit bien les choses, vous voyez, ça dit bien les choses. Tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans l'histoire de l'humanité et Dieu change d'avis par rapport à l'humanité. Mais c'est comme ça qu'on l'a présenté quand même les choses, malheureusement, voyez. Donc ça, Rahner veut rien de ça, évidemment. Mais bon, après, il faut traiter ça. Et ensuite, voyez, vient déjà une affirmation positive. Donc je vous ai donné dans, ici, je vous invite à la fois à lire le texte, mais je vous ai donné les formules essentielles. Tout salut réel ne peut être pensé qu'advenant dans l'accomplissement de la liberté propre à chacun. L'accomplissement de la liberté, voilà le salut. C'était derrière un peu ce que je vous ai dit sur la substitution, voilà, aussi, bien sûr. Mais ça, c'est la thèse de Gaudium et Spes. Alors, cette double critique conduit vers un discernement très fin des énoncés du salut proposés par le Nouveau Testament et en particulier du langage sacrificiel. Alors là, il faut distinguer, il y a une formule, je sors une formule centrale de Rahner et que je commente. Et il faut voir du côté de Dieu et du côté de l'homme. Donc vous voyez, c'est les deux tirés. Alors du côté de Dieu, Rahner va insister sur le fait que Dieu est lui-même la cause absolue de la réconciliation. Vous voyez, c'est pas le Christ qui réconcilie Dieu avec lui-même. Dieu est d'emblée et depuis toujours réconcilié avec lui-même et il n'a pas besoin de changer d'avis par rapport à l'homme. Et voilà maintenant la formule avec les deux parties que je commenterai. C'est justement un Dieu auquel nous croyons, nous chrétiens, aimant le pécheur originairement et sans raison. Ah, la rose est sans raison, gratuitement. Qui devient la cause de sa réconciliation. Donc, il est lui-même la cause. Donc, qui est réconcilié comme un réconciliateur à partir de lui-même. Et maintenant, la deuxième partie de la phrase, et c'est comme tel qu'il veut manifestement, à partir de lui, la même grâce que procure le Christ et qui nous donne la possibilité de nous tourner librement vers Dieu. Donc je vais essayer de vous commenter cette Rahner à l'art de ces formules très très ramassées, mais il faut prendre du temps un tout petit peu pour les commenter et pour les comprendre. Alors d'abord la première partie de la phrase, donc trois affirmations. Première affirmation, Dieu est la seule origine d'une seule grâce, gratuité de Dieu, donnée originairement, depuis toujours et sans raison. Voilà. Cette grâce, c'est quoi? C'est d'abord le Christ lui-même. Donc le Christ est la grâce, l'intégralité de la personne du Christ. Et ensuite, évidemment, c'est la deuxième partie de la phrase, notre propre liberté de nous tourner vers Dieu. Donc, vous voyez, il y a la grâce à deux visages, si je puis dire. C'est le visage du Christ et c'est notre visage. Le visage du Christ, c'est le don de Dieu. Le Christ est le don. Comme on peut dire, une personne, tu es vraiment un don pour moi, cette personne. On peut lui dire parfois à telle personne. Un charisme, tu es le charisme. C'est pas uniquement ce que tu fais chez Paul, n'est-ce pas? C'est ça l'idée du charisme. C'est la personne du pauvre qui est un don. Donc le Christ est le don. Mais en même temps, la grâce, c'est aussi la liberté de se tourner vers Dieu, de recevoir la grâce. Alors, la grâce du Christ, qu'est-ce que c'est donc la grâce du Christ? C'est son obéissance confiante jusqu'à la mort, et c'est cette confiance qui est la manifestation de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire la manifestation de la miséricorde de Dieu, c'est un homme pauvre qui se vide de lui-même et qui engage de cette manière l'existence, qui n'est pas centré vers lui-même. Voilà. C'est par sa pauvreté qu'il nous a enrichis, dit saint Paul. C'est magnifique cette formule énigmatique, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc la grâce, c'est la pauvreté du Christ. Son obéissance, son écoute jusqu'au bout. Celui qui accueille librement le destin de la mort, donc je cite Ranner pour vous donner les formules précises, se livre précisément aux possibilités imprévues de son existence, voyez, qui se vide de toute prévision, des possibilités qui échappent à tout calcul. Ça, c'est le Christ. L'enfant, voilà, le Christ enfant. Pourrait-on dire. Et ensuite, Jésus maintient dans sa mort sa prétention unique en même temps, en se laissant appauvrir, il maintient dans sa mort sa prétention unique à l'identité de son message et de sa personne. C'est le cœur de la Christologie. Il laisse son message dans l'espérance d'être confirmé par Dieu dans cette mort quant à sa prétention. La résurrection est cette confirmation définitive et par là, la manifestation ultime de la grâce de Dieu qu'est le Christ. La résurrection comme confirmation de cet homme où ce qu'il dit et ce qu'il fait et ce qu'il est concorde absolument. J'interprète. Donc vous avez ici une concentration très radicale de l'itinéraire de Jésus, de sa croix, dans son acte d'obéissance, dans sa pauvreté, dans sa kénose, pourrait-on dire, confiante, et qui est la manifestation de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est la révélation de Dieu, la manifestation de Dieu? C'est la pauvreté du Christ, c'est l'obéissance du Christ, c'est ça la grâce, finalement, nous dit à la suite de l'apôtre Karl Rahner, voilà. Alors du coup, vous avez ici un risque, je le signale tout de suite, c'est-à-dire qu'il risque anselmien la concentration, évidemment, de tout, finalement, dans la passion du Christ, passion et résurrection. Mais apparaît aussi avec netteté que le pour nous et pour notre salut, le pour nous les hommes et pour notre salut est d'abord le pour nous de Dieu lui-même. Donc le Christ révèle le pour nous de Dieu. C'est ça la grâce. La cause absolue, originaire et sans raison de sa grâce. Depuis toujours, s'il y a Dieu, c'est un Dieu pour nous. L'évangile comme Dieu, ou Dieu, l'évangile de Dieu et Dieu comme évangile. C'est très important de réaffirmer ça sans cesse, dans une société ou dans des sociétés mondiales où religion rime avec violence. Et Dieu rime souvent avec violence. C'est pour ça que j'insiste tant là-dessus. Alors maintenant, du côté de l'homme. Donc c'est la deuxième partie de la formule. Et c'est comme tel que Dieu veut manifestement, à partir de lui, la même grâce que procure le Christ et qui nous donne, le Christ nous donne, la possibilité de nous tourner librement vers Dieu. Rainer continue, où se poserait une fois encore la question de savoir comment l'articulation entre la mort du Christ comme grâce de Dieu, donc la pauvreté radicale du Christ confirmée par Dieu dans la résurrection, c'est la grâce, Dieu tourné vers nous, et notre liberté libérée par la grâce. Comment penser cela d'une manière précise, cette relation? Comment comprendre dès lors le « pour nous » de la mort du Christ, et pas uniquement le « pour nous » de Dieu, dans la grâce qu'est le Christ? Et voyez, c'est là où apparaît à la fois le refus de l'idée de substitution, à cet endroit-là, et l'idée de solidarité. Les deux à la fois. D'abord, l'idée de refus de substitution, remplacée par l'idée de solidarité. Et voilà, je dis, le texte de Rainer, la thèse, à partir de la mentalité propre de l'Écriture, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tant à partir de l'autocompréhension de l'homme en général, donc si vous voulez, d'une anthropologie générale, l'on peut certes présupposer, voilà le grand présupposé qui permet au fond de créer un lien entre Christ et nous. On peut présupposer que l'histoire humaine est une. C'est-à-dire, dès que vous dites humanité, vous dites, il y a une unité de l'histoire humaine. Bon, c'est une idée que le christianisme a livrée à la culture mondiale, jusqu'au crime contre l'humanité. Donc vous avez tout d'un coup un concept qui émerge au milieu du XXe siècle en 48. L'idée d'une humanité une. Voilà. Parce que pour les Grecs, il y a les humains et les barbares. Évidemment, il y a toujours cette division. Donc le propre de la tradition biblique, c'est d'introduire, et c'est une anthropologie générale en même temps, l'idée d'une humanité une. Dignité humaine, on revient à Gaudium et Spes, que le destin de l'un a une signification pour l'autre. Qu'est-ce qui se passe pour un petit Australien concerne un Européen? Alors, la question écologique, évidemment, nous le rappelle aujourd'hui avec force. Avec force, cela. Quelle que soit la façon dont on peut interpréter par après, et avec plus de précision, cette unité de l'histoire et cette solidarité des hommes. Donc, voyez, vous avez là la pointe de Gaudium et Spes, et en même temps de cette théorie de la solidarité. Cette solidarité ultime de tous les êtres humains est fondée sur le fait, dit Rainer, que tous sont renvoyés à leur origine. Alors, Rainer appelle ça la fondation transcendantale. Laissons tomber ça pour le moment. C'est compliqué, ça demanderait un long, je fais ça en christologie, j'expliquerai ça un peu. Mais on peut dire au moins, je dirais, qu'est-ce qui fait qu'il y a une solidarité, c'est-à-dire on peut dire qu'il y a une origine commune à l'être humain, mais on peut dire aussi de manière beaucoup plus simple que tous les êtres humains sont indéterminés. Et en ce sens-là, appelés à donner forme à leur existence. Et ça, c'est une aventure commune. Et qui renvoie à une absence que la pauvreté du Christ conduit jusqu'au bout. Que la pauvreté du Christ conduit jusqu'au bout. C'est au moins ça qu'on peut dire universellement. Une absence, vous voyez. L'homme, comme disait Pascal, transcend infiniment l'homme. L'homme dépasse infiniment l'homme. Mais que personne, deuxième élément, ne peut se rapporter à cette origine sans passer par l'autre et par toute l'histoire humaine. C'est sans doute ce qui est dramatique, c'est-à-dire l'oubli. L'oubli de ça. C'est donc deuxième élément de l'argument. C'est dans cette histoire que l'homme peut rencontrer celui qui, ayant accompli jusqu'au bout cette relation à l'origine, est l'expression parfaite de la volonté salvifique de Dieu, donc le Christ. Il peut le rencontrer comme celui, le nouvel Adam, mais voyez, j'ai beaucoup précisé avec Rainer, c'est-à-dire l'homme qui se vide de lui-même, voilà, finalement, et qui se livre radicalement à son mystère. Vie et mort du Christ, maintenant vient la formulation de Rainer, sont donc cause de la volonté salvifique de Dieu pour nous. Donc, on a d'abord affirmé que Dieu lui-même est cause du salut depuis toujours, le Dieu tourné vers nous. Maintenant vient le Christ. En quel sens est-il cause ? Vie et mort du Christ sont donc cause de la volonté salvifique de Dieu dans la mesure où c'est seulement en celle-ci, c'est-à-dire la vie et la mort du Christ, que se pose réellement et de façon irréversible cette volonté de salut. Dans la mesure où vie et mort de Jésus possèdent en conséquence, alors là vient le terme technique de Rainer, une causalité de type quasi sacramentel. Voyez, il récupère ici toute la scolastique, symbolique du réel, dans laquelle le signifié, donc le signifié et le signifiant, symbole, le signifié, ici c'est la volonté de salvifique de Dieu. Donc tout ce qui était dans le, sous le premier tiret, voilà. Dieu, toujours Dieu pour nous, la grâce. Voilà. Ce signifié pose le signe. Dieu lui-même pose le signe, c'est-à-dire la mort de Jésus avec sa résurrection, et par ce signe se réalise lui-même ce qu'il est depuis toujours. Vous voyez, c'est une manière, pour résumer, de maintenir très radicalement que Dieu ne change pas d'avis, qu'il est depuis toujours Dieu pour nous. On pourrait dire Emmanuel. Emmanuel, depuis toujours, Dieu pour nous. Et la grâce, c'est le Christ, mais le Christ n'est pas la cause du salut. Il est la cause du salut analogiquement, dans la mesure où il est le signe sacramentel, le Christ comme sacrement, le signe sacramentel, et ça veut dire irréversible dans l'histoire de l'humanité, de ce que Dieu est pour toujours. Donc, il est le signe du signifié, qui est la volonté salvifique de Dieu pour toujours. Mais l'incarnation est donc ce moment où ce signifiant, voilà, le signe arrive et montre de manière irréversible, c'est ça la grâce, que Dieu est toujours pour l'humanité. Donc vous avez ici donc évidemment un présupposé fondamental, c'est la solidarité. C'est pour ça un modèle de solidarité, le pour nous du Christ, le pour nous du sacrement qu'est le Christ, la solidarité de l'humanité tout entière qui passe toujours concrètement par l'autre. Il n'y a pas de sacrement sans l'autre. Réalisé ultimement dans l'obéissance du Christ jusqu'à la mort, sa vie et sa mort étant la causalité salvifique ou quasi sacramentelle de la volonté salvifique universelle de Dieu qui se pose ainsi réellement et de façon irréversible. C'est Dieu qui est le sujet. Alors, juste pour terminer, brève évaluation. Donc, vous voyez, une première différence, le modèle de substitution se greffe sur la crise galiléenne. Le modèle de solidarité se réfère essentiellement sur le mystère pascal, et du coup, peut-être, il y a une trop grande discrétion par rapport à la vita Christi, dans ces éléments, ce n'est pas une reproche qu'on peut faire par ailleurs à Rainer, parce qu'il a donné les exercices, il a fait un commentaire, et donc il a quand même une conscience de la vita Christi, évidemment. Mais il y a ici, dans sa sotériologie, une même concentration qu'on trouve chez Anselme de Canterbury. Voilà. Première remarque. Alors, sur quoi porte finalement le conflit entre les deux modèles, substitution et solidarité, sur la position de l'éthique? Et voyons, on revient ici au débat entre Augustin et Pélage. Le modèle de satisfaction vicaire, voire de substitution, a tendance à dramatiser l'existence humaine, le péché du monde, de sorte que Dieu seul peut satisfaire à Dieu, tendance à l'effacement du versant éthique de l'être humain, de sa liberté. Ça, c'est le risque du modèle de substitution. Le modèle de solidarité a plutôt tendance à dédramatiser l'existence et à réévaluer l'éthique et la liberté humaine, au point que le salut comme don risque de s'effacer. Encore une fois, on ne peut pas rapprocher ça à Rainer. Mais vous voyez, vous avez des mouvements de tendance qui obligent à articuler le modèle de substitution et le modèle de solidarité, ce que j'ai essayé de faire à la fin de mon commentaire du modèle de substitution. Voyez, sur la notion d'échange, la liberté comme échange qui respecte à la fois l'insubstituabilité et qui pousse jusqu'au bout la sympathie et la compassion. Alors, il reste le modèle politique et le modèle du soin. On regardera ça rapidement la prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, de les mettre dans mon casier ou les formuler, et je tâcherai de réagir. Voilà. Bonne semaine. Bonne soirée d'abord.